Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio The Street Yeti. Bonjour.
Bonjour.
Et Claudine Brunet, bonjour.
Bonjour.
Claudine Brunet, vous êtes créatrice et responsable de ce lieu d'art, le Ventaïr, à Barnave. Et vous avez invité pour une exposition de The Street Yeti avec des animaux qui hurlent dans les forêts en feu. Voilà, toute une histoire. Alors, avant tout, on pourrait peut-être, Claudine, nous expliquer ce qu'est le Ventaïr et son origine aussi.
Alors, le Ventaïr, c'est un mot du patois barnavois, du patois régional, qui désigne un engin agricole du siècle dernier et qui servait à séparer la balle du grain de blé. En français, on l'appelle ça un tarare, voilà. Mais j'ai préféré garder le nom patoisan qui était employé par mon beau-père qui habitait cette ferme à l'époque.
Un engin visible aux abords de cette galerie ?
Alors, il a été visible, mais maintenant il est parti chez une autre personne, à Lèche-en-Diois, mais j'ai gardé sa photo où il était installé dans cette pièce à l'époque où le sol, où tout était en terre battue, voilà.
C'était un appareil fixe où il se déplaçait.
Il pouvait se déplacer, donc ouais. Il le sortait à l'extérieur, il le mettait sur l'air et une fois que les gerbes de blé étaient coupées, ramassées dans les champs environnants, donc elles étaient mises à l'intérieur de ce ventail et une roue tournait et voilà.
Voilà,
c'était un travail pénible d'époque d'avant les moissonneuses batteuses.
Voilà, et donc les végétaux, les débris de végétaux étaient propulsés par cette ventilation
voilà,
aussi,
exactement,
avec des pales.
Tout à fait, oui.
C'est peut-être son nom aussi, le Ventaïr.
Voilà.
Et donc, vous avez voulu inviter The Street Yeti. Qu'est-ce qui vous a séduit dans son travail ?
Écoutez, j'ai connu The Street Yeti il y a quelques années dans une petite galerie grenobloise. À l'époque, j'avais été au courant de cette exposition un peu underground par ma fille qui est photographe et qui exposait aussi quelques photos. Et j'arrive dans cette galerie dont j'ai oublié le nom, peut-être que The Street Yeti me le rappellera, c'était déjà il y a quelques années. Donc j'arrive pour voir les photos de ma fille. Bon, voilà. Et juste à côté, je tombe sur un crocodile réalisé en tampon patate. Alors, j'ai été happée par ce travail qui était nouveau pour l'époque, mais que je connaissais moi déjà, petite fille. Voilà, j'avais déjà travaillé, fait des petits tampons avec les pommes de terre. Et donc, je suis revenue enchantée par ce travail différent, hors norme, différent de tout ce qu'on avait l'habitude de voir dans les galeries. Et comme à l'époque, je travaillais en bénévole dans la galerie Alter Art de Grenoble, je l'ai proposé un peu à la direction d'Alter Art. Et voilà, donc elle a été exposée là. Elle nous a fait une exposition magnifique avec des œuvres sur le sol. Moi, je n'osais pas marcher dessus, mais Street Yeti m'avait dit « Mais si, on peut marcher dessus ». Et voilà, et puis c'est depuis ce jour-là que j'ai suivi attentivement tout son travail dans différentes expositions qu'elle a faites sur la région.
The Street Yeti, alors pour vous, ce nom, qu'est-ce que vous voulez signifier ?
Moi, je travaille essentiellement sur le bestiaire, c'est-à-dire l'imaginaire lié aux animaux. Et donc, le Yeti, c'est un animal qui renvoie à l'enfance. On l'a croisé dans Tintin au Tibet. Mais c'est un animal qui, en fait, on aime à se faire peur avec le Yeti, comme on aime à se faire peur avec le grand méchant loup. Mais finalement, on n'a jamais vraiment peur. Donc, dans mon travail, il y a la rencontre entre le fantastique, le bestiaire et aussi l'enfance à travers soit des techniques graphiques, comme disait Claudine, le tampon patate, mais soit aussi l'univers des contes, des légendes et puis de ce qui fait notre enfance.
Vous êtes plasticienne avec une formation au préalable ?
Non, je suis plutôt autodidacte et comme l'a dit Claudine, je viens des arts hors normes, c'est-à-dire faire de l'art avec des supports non nobles, ben là, toute l'exposition que vous pourrez voir, elle est sur du papier craft. Faire de l'art avec des patates, avec des choses complètement différentes qu'une formation académique.
Et justement, ce matériau non noble, qu'est-ce qui vous permet ensuite de le conserver? Ou alors c'est de l'art éphémère?
C'est fragile, mais bon...
Ça demande beaucoup de soins pour le conserver.
Hier, on a fait l'accrochage. Et c'est des papiers craft qui font 6 mètres ou 8 mètres. Donc, on a été très, très attentifs. Voilà. Et c'est aussi cette fragilité qui est assez belle parce que c'est cette fragilité qui renforce aussi le propos de la fragilité de notre monde, de l'environnement qui est mis à mal de manière violente.
Alors, les tampons patates, c'est ça, hein, sont un des moyens de graver, de dessiner, mais vous avez aussi d'autres techniques.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette expo, c'est du street art, parce que ça, c'est une des grandes pratiques que j'ai. Donc, je suis ce qu'on appelle une pochoiriste. Donc, je travaille au pochoir et donc à la bombe aérosol, soit sur du papier, soit en extérieur.
Uniquement la bombe aérosol?
Ben,
parce qu'il y a aussi la brosse à pochoir.
Non, ça, moi, c'est une que technique. À la bombe.
Oui.
J'avoue que j'aime assez. En plus, c'est quand même assez addictif comme odeur.
Ah.
On ne va pas se mentir, c'est quand même très addictif. Et il y a un côté très jouissif parce que quand vous projetez la bombe de peinture, vous avez tout de suite une couleur très riche en pigments, éclatante. Et il y a quand même ce côté... C'est une technique qui est assez magique aussi.
Ça fait combien d'années que vous exercez cette expression
du... À peu près 5 ans. Voilà.
5 ans. Et vous parliez donc de tisser ou relier l'urbain avec le monde sauvage. Vous vous adaptez aussi au monde rural pour travailler ces œuvres?
Ben, je viens quand même en partie du monde rural. Moi, j'ai passé toute mon enfance à Glandage, donc dans le Diois. Et donc, bah, mon univers intime, il vient de ces milieux du Diois, de la montagne, de la ruralité, des lavandes, de la Provence d'ici. Mais ensuite, je suis quand même urbaine dans mon environnement. Donc, j'aime bien lier ces deux univers. Et ce qui a aussi été déterminant pour mon travail sur le bestiaire, c'est au moment du Covid où les animaux sauvages ont envahi les rues et où on s'est rendu compte qu'en fait... Ce monde sauvage, il est très proche de nous, mais on ne sait plus le voir. Voilà.
Claudine, pour vous, ça sera un pincement de cœur à la fin de cette exposition, de voir cette œuvre au sol disparaître?
Ben oui, ça sera un gros pincement de cœur, d'autant plus que je l'ai choisi pour cette année 2025, puisque ça sera la dernière année où j'ouvrirai le Ventahir. Voilà. Après, il existera certainement sous une autre forme. Plus personnel. Voilà.
C'est une exposition qui a lieu jusqu'à quand?
Jusqu'au 17 août.
Alors, de toute façon, pour s'y rendre, il suffit de téléphoner ou il y a des horaires du jeudi au dimanche, hein, c'est ça, de 16 à 19h?
Exactement, c'est ouvert du jeudi au dimanche.
Inclus. Voilà, j'avais mal lu le petit mot, en fait. Donc, une exposition qui commence à partir de demain?
Le 10 juillet, nous avons le vernissage, donc à partir de 18h30. Voilà, en général, tous les vernissages du Ventahir attirent pas mal de monde et j'espère que pour le vernissage de The Street Yeti, il y aura foule.
Le Yeti, celui dont on parle mais qu'on ne voit jamais, c'est un peu à votre image?
Oui, ça c'est aussi assez, assez drôle parce que je fais des œuvres qui sont quand même assez... on pourrait dire viril, même ça ne veut pas forcément dire genré, mais il y a une puissance assez bestiale. Et en général, quand on voit mes œuvres et qu'on me voit moi, les gens disent « Ah, mais on ne vous imaginait pas du tout comme ça !» Ou « Comment une femme qui a l'air si douce comme vous, vous pouvez faire des choses aussi violentes ou aussi bestiales ?» Et ça, j'aime bien justement brouiller les pistes. Ouais. Et le contraste, parce que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit forcément dessiner des champs de lavande et faire des choses très genrées, quoi. Et j'aime bien justement ce côté un peu provocateur
Et surprenant.
Et surprenant.
Alors, les animaux qui hurlent dans les forêts en feu, c'est le titre de cette exposition et qui est certainement le fil de ces œuvres qui seront proposées. Il y en a une au sol, ou plusieurs,
pas et ici, d'autres. Pas ici, non, pas au Ventaïr. Au Ventaïr, elles sont toutes accrochées sur les murs.
D'accord.
Mais vous avez un côté immersif, c'est-à-dire que dès que vous rentrez dans la galerie, eh ben, vous avez des œuvres vraiment à 360 degrés, donc vous avez l'impression d'être dans cette forêt en feu. Et on a ces animaux qui sont pris au piège. Donc pour faire, c'est une très très grande fresque en fait, en plusieurs morceaux. J'ai contacté les pompiers et je leur ai vraiment demandé ce que devenaient les animaux pendant les incendies, parce qu'on n'en parle jamais. Et enfin, on a parlé des koalas en Australie parce que c'est des koalas, mais finalement nous aussi on a des animaux qui sont calcinés lors des incendies. Et ils m'ont dit que ils croisent des animaux calcinés ou en fuite. Les gros bestiaux, par exemple les sangliers ou les cerfs, ils se mettent à courir, mais ils sont déboussolés par les fumées et parfois ils courent directement dans le feu. Et les écureuils sont des propagateurs de feu. Donc les écureuils, c'est les pires ennemis des pompiers parce qu'ils sautent de cime en cime et ils propagent le feu de manière très rapide. Mais ça, j'ai choisi de ne pas le représenter parce que ça a un côté un peu grotesque et ça faisait trop penser à l'âge de glace. Et ça aurait cassé mon propos. Et puis, on a les oiseaux. Les pompiers guettent les oiseaux parce que dès qu'il y a des envols d'oiseaux, ils savent qu'il y a un départ de feu. Donc, ils se rendent sur ce départ de feu pour essayer de stopper l'incendie. Et je leur ai vraiment demandé les couleurs de l'incendie. Donc, ils m'ont vraiment montré des photos très réalistes. Moi, j'avais l'impression que lors d'un incendie, toute la forêt brûlait en même temps. Et en fait, ils m'ont expliqué que c'est des vagues qui avancent. Ça fait des rollovers, des gros boudins. Et qu'en amont de ce rollover, là, de ce boudin de feu, les arbres rendent une vapeur très épaisse. Donc, c'est la vapeur d'eau, parce qu'ils suent, quoi. Et ils transpirent. Et en aval de ce rollover, on a des fumées carboniques et puis les troncs calcinés. Et sur le sol, c'est des cendres bouillantes avec des paysages lunaires et plein de nuances de gris qu'on retrouve du coup sur ces fresques. L'avantage du street art et de la bombe aérosol, c'est que ça permet de faire une infinité de nuances de couleurs très subtiles, quoi.
C'est en fonction de cet incendie à Romillé qui s'est produit il y a quelques années. Est-ce que vous avez eu un centre d'intérêt sur son impact, surtout ?
Alors, j'ai passé mes vacances dans le Diwa quand j'étais enfant, mais j'habite à Voiron. Et donc, il y a eu un incendie à côté de Voiron et c'est à la Buisse. Et c'est cet incendie-là qui m'avait vraiment interpellée. Mais c'est quand même l'incendie, c'est vraiment une problématique contemporaine dramatique, quoi.
Et c'est toujours d'actualité, encore en ce moment, ouais. Et l'incendie que nous avons eu là, dans la Drôme, se passait à peu près à la même époque que celui de la région de l'Isère. Donc, on était entourés de feu.
Il y a eu un petit départ récemment, aussi encore à Châtillon.
Ah oui, il y a quelques jours, j'ai vu ça sur le journal.
Et là, hier soir, j'ai entendu que c'est dans l'Aude, je crois qu'il y a des incendies géants.
Oui, et vers Fréjus encore, oui.
Vous-même, êtes intéressée par pompiers volontaires?
Non, je n'ai pas le physique pour faire ça.
Vous n'avez pas le physique?
On ne voit pas à la radio, mais...
D'accord. Il faut être costaud, hein.
Oui, ouais, je pense,
oui.
Ça va. Hein,
y a plein de femmes qui sont pompiers.
Oui, aussi. Oui. Non, mais j'ai beaucoup d'admiration.
C'est pour ça que je pose la question. Et justement, cet aspect dégenré, c'était pour. Oui.
Mais par contre, le capitaine de la caserne des pompiers de Voiron était venu faire le vernissage et l'inauguration de la première exposition, cette première exposition, et il avait dit une phrase qui était très troublante. Il avait dit, pour nous, les pompiers, le feu a avant tout une valeur esthétique. Et donc, il y a cet appel du feu. Et même quand on voit la fresque, ça a un côté sublime parce que ce sont des rouges,
c'est
des rouges gris.
Oui.
Il y a plein de orange fluo. Et en fait, on est attiré par ces couleurs. Mais quand on réfléchit, c'est juste horrible, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition? On y voit un avant et un après?
Oui, il y a quand même un récit, justement, un avant et un après. Il y a vraiment, comme je vous disais, le cœur de l'incendie, avec toutes ces nuances qui sont liées en fait à la différence de température des flammes. Et puis on voit aussi ces arbres qui suintent la vapeur et on voit les paysages désolés d'après le feu et ces animaux. Alors là, j'ai pas voulu représenter d'animaux calcinés parce que c'est un côté très horrible et bon, je voulais quand même garder le côté sublime de l'incendie et que ce soit juste par l'intellect qu'on se rende compte que c'est horrible et pas par l'image. Voilà. Que le travail soit fait par le spectateur de se dire c'est beau et ensuite qu'ils se disent mais en fait c'est horrible.
Votre inspiration graphique, vous la puisez dans les promenades, dans les forêts, dans les espaces, dans les paysages, toujours avant et après peut-être un incendie.
Oui, je voulais même à un moment aller vraiment récupérer des bois calcinés pour réaliser la fresque, pour faire par exemple comme du fusain géant quoi, en prenant des troncs. Et puis, je suis plus douée avec une bombe qu'avec un tronc d'arbre. Donc, ça aurait rendu quelque chose de très différent. Mais oui, à un moment, j'ai eu envie d'aller au bout de la démarche. Et sinon, mon imaginaire graphique, il vient aussi beaucoup de l'illustration, des livres pour enfants, parce que je trouve que c'est sublime, quoi.
Claudine, c'est aussi cette légèreté qui vous a interpellée, malgré le propos.
Oui, et surtout, moi j'aime beaucoup les couleurs. Donc les couleurs rougeoyantes m'ont vraiment attirée énormément. Et j'aime aussi beaucoup les animaux. Donc voilà, c'est un travail qui m'a fait réfléchir au niveau couleurs et au niveau de la vie de ces pauvres animaux après tous ces incendies. Parce que finalement, tout le monde se préoccupe de l'homme, mais du vivant animal... pas beaucoup de personnes. Hein. Rien qu'à voir déjà l'été quand les gens partent et certains abandonnent leur petit chat ou leur petit chien, ça me rend malade. Voilà, parce que ça existe, ça aussi.
Des chats sont abandonnés, donc ?
Certains, oui, oui. Moi, j'en ai recueilli un en été qui venait me voir tout le temps. Et voilà, donc...
Comment procède cette mise en dessin, en couleur, face à un papier craft, par exemple ?
Alors, il faut procéder par plan. C'est-à-dire que, comme c'est du pochoir, il faut d'abord travailler sur l'arrière-plan. Donc là, concrètement, mon papier craft, c'est un papier avec une couleur très chaude, très sableuse. Et c'est ça que j'adore dans le papier craft. Ça aurait donné quelque chose de très différent avec une toile blanche, par exemple. Et je ne serais pas arrivée à un tel effet. Et donc, j'ai d'abord mis des fumées noires à la bombe, comme ça. Et puis ensuite, j'ai mis différents plans d'arbres. Donc ceux qui sont les plus loin sont presque flous. Et puis ensuite, j'ai avancé comme ça de plan en plan pour arriver jusqu'aux flammes et jusqu'aux animaux qui sont pris dans les flammes. Quoi.
C'est un peu le principe du film d'animation aussi, où les parties du fond sont plutôt floues et plus on se rapproche du personnage, il y a une netteté. C'est un peu aussi cet abord de graphisme que vous proposez.
Oui, y a des techniques qui sont transversales, oui. En fait, entre la bande dessinée, le street art, l'animation, effectivement, parce qu'on doit réfléchir à créer une profondeur de champ.
C'est justement cet univers qui vous inspire, et de manière à acquérir une technique graphique.
Alors, effectivement, dans mes inspirations très très fortes, et presque charnelles, physique, il y a tous les dessins animés de Miyazaki. D'ailleurs, dans la fresque, il y a une sorte de sanglier qui ressemble un peu à un phacochère et qui est en fait le sanglier qu'on voit dans Princesse Mononoke. Okay, ouais. Et ce qui est très fort justement dans les dessins animés de Miyazaki, c'est que c'est pas du tout comme dans les Walt Disney, c'est pas manichéen, et que comme c'est une religion animiste, la nature peut avoir toujours deux côtés. Elle peut avoir un côté très bienveillant, ça peut être la forêt dans laquelle on va se promener, mais elle peut avoir un côté très dangereux, très violent, très puissant, justement quand l'homme a porté atteinte au respect de la nature et a brisé les équilibres naturels Et dans ce cas, les éléments naturels se déchaînent. Ça peut être l'eau avec les inondations, comme on voit aujourd'hui aux États-Unis, mais ça peut être aussi le feu. Et donc, dans la culture japonaise, et ce qu'on voit bien dans les dessins animés de Miyazaki, c'est qu'il y a ces deux éléments, cette extrême violence de la nature qui se retourne contre les hommes qui ne l'ont pas respecté.
Respecté, évidemment.
Et ça, c'est le cœur de mon travail.
Claudine, vous dites être en fin de lieu d'exposition, donc est-ce que vous-même êtes artiste ?
Oui, ça m'arrive de temps en temps. Oui, oui, je suis une touche à tout. Ouais. Je peins aussi. Bon, moi, c'est pas dans le même genre que The Street Yeti, mais je fais ce que je peux parce que bon, je suis aussi autodidacte. Bon, j'ai fait quelques stages aussi et appris par contre la gravure. Donc, j'aime beaucoup graver et en ce moment, je fais beaucoup de collages. D'ailleurs, à Barnave aux Artistes, j'avais exposé des collages. J'avais ouvert la galerie exceptionnellement pour les 2 jours de Barnave aux Artistes.
Vous êtes paysagiste. Quels sont les inspirations?
Alors, les inspirations sont variées aussi dans mon souvenir de famille, dans mes voyages, dans mes promenades dans les bois aussi, ça peut arriver, voilà. Et je lis aussi beaucoup de magazines d'art, j'ai beaucoup d'œuvres d'art sur mes étagères, dans ma bibliothèque, et je suis inspirée aussi par pas mal d'artistes, voilà. C'est au gré de mes humeurs du jour et du temps que j'ai pour les réaliser.
The Street Yeti, avez-vous pratiqué l'autoportrait ?
Non. je dessine très très peu de figures humaines. Voilà. J'ai quand même, je dis non comme ça brusquement, mais en réalité j'ai fait une bande dessinée sur ma vie entre 0 et 18 ans. Et donc là, oui, je me suis dessinée, mais c'est un peu un travail en parallèle de ce que je fais habituellement. C'était une petite parenthèse personnelle.
Il y a des animaux qui sont plutôt mis en avant dans votre travail ?
Alors, j'aime bien me focaliser sur un animal à chaque exposition. J'avais fait une monographie sur l'ours qui était présentée à la Maison du patrimoine de Villard-de-Lans. Donc, c'était toute une expo consacrée à l'ours. À partir des travaux de l'historien Michel Pastoureau. Et là, plus récemment, j'ai fait toute une exposition sur le renard, et précisément sur l'ouvrage du Moyen-Âge qui s'appelle Le Roman de Renard, qu'on connaît plus ou moins tous. Et donc là, j'aime bien prendre un thème et ensuite le décliner avec tout un tas de techniques différentes. Pour le roman de Renard, il y a du détournement photographique, du roman photo, de la peinture sur toile cirée, des peluches, de la peinture sur bois. Enfin, il y a tout ce que je sais faire, je le mets dans mes expos.
Hors normes.
Oui.
Vous êtes plutôt à vous outiller ou à prendre la matière qui vous environne pour travailler, hormis ces bombes ?
Non. J'aime bien aller chercher des choses très spécifiques. Par exemple, pour le roman de Renard, j'ai fait des photos de moi dans la nature et ensuite je me suis grimée en renard. Ou alors, je suis allée chiner à Arles des vieilles affiches scolaires. Et donc, j'ai fait toute une partie de détournement à partir de vieilles affiches scolaires. En général, j'ai une idée très, très claire de ce que je veux faire. Et j'achète beaucoup d'objets aux enchères pour ensuite les utiliser, les détourner. Donc, c'est plutôt des objets historiques.
D'ailleurs, sur une jaquette de présentation pour le musée, la bibliothèque du Pays Loiraunais, il y a cette exposition donc de Le Roman de Renard avec ses photographies de vous, avec une intervention graphique sur ces photographies et qui vous rapproche donc de ce renard. Est-ce que pour vous, il y a une identification qui opère entre vous, The Street Yeti, et cet animal ?
Celui-là et beaucoup d'autres.
Oui, là, vous partez sur cette thématique. Donc, à chaque exposition, il y a... Qu'est-ce qui vous amène à cette mutation ?
Il y a une part animale quand même assez forte en moi et que je ne renie pas. Voilà. Et j'aime bien jouer avec ça parce que ça fait partie du masque, du carnaval. Et puis, en même temps, ça fait partie de... Enfin, on peut révéler des instincts sauvages en nous qui, qu'habituellement, on doit plutôt faire taire. Et moi, j'aime bien justement jouer avec, avec ces instincts un peu sauvages et ce côté un peu agressif. Alors qu'encore une fois, quand on me voit, on me considère plutôt comme douce et calme. Et j'aime bien ne pas l'être du tout quand je crée.
Il y a cet aspect, ça me fait penser à ce personnage Wolverine. Je ne sais pas si vous êtes les super-héros Marvel, avec donc cet aspect loup. Il y a cette force.
Oui, je pense que j'ai une part de loup et de force assez forte.
Et on dit que malin comme un renard aussi.
Oui, sans doute.
Et rusé. Oui. Et rusé comme renard.
C'est un peu la ruse aussi qui vous inspire pour présenter vos œuvres, celle de Barnab, donc avec ses grands supports sur craft. Est-ce que vous voulez égarer aussi le spectateur, le visiteur?
Alors, pour Barnab, l'expo Animaux qui hurlent dans des forêts en feu, c'est plutôt un cri d'alarme. Alors que pour d'autres expos, j'aime beaucoup jouer avec l'humour. Et j'aime bien que les spectateurs retombent en enfance et retrouvent un plaisir très primitif. Mais c'est vrai que dans l'expo du Ventaïr, c'est plutôt... Il y a le côté esthétique qui séduit, mais il y a plutôt le côté dramatique. Et là, c'est pas drôle du tout, des animaux qui brûlent dans des forêts. Donc pour cette expo précisément, j'ai pas invoqué le côté humoristique.
Justement, est-ce que vous prévenez les enfants avant d'entrer sur le lieu?
C'est pas prévu, normalement.
Non.
Ils feront la découverte. C'est pas affolant quand on voit l'exposition. Il faut simplement réfléchir. Après, peut-être, lorsqu'ils sont accompagnés par leurs parents, ils auront des explications.
C'est pas du tout une exposition qui se veut choquante. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas mettre d'animaux calcinés.
Oui.
Mais c'est plutôt subtil. Enfin, voilà, c'est une impression, une impression de quelque chose qui déraille en fait entre cet incendie et cette présence animale. Mais ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus accessible à des adultes. Mais les enfants, ça ne va pas du tout, du coup, tout les choquer. Ils aiment les loups, ils aiment...
Oui.
Au contraire, ils vont être subjugués par tous ces beaux animaux, finalement.
Non, j'imaginais qu'il y avait des animaux en flammes sur représentations. D'accord. Au-delà de la nature qui vous inspire, quelles sont les lectures qui vous dirigent aussi?
Eh bien, je lis beaucoup sur justement le bestiaire, l'interprétation animale. Donc beaucoup, enfin, je suis complètement fan de Michel Pastoureau. Et d'ailleurs, il me fait l'immense honneur de venir l'année prochaine. Je vais exposer à Troyes et il va venir faire une conférence dans le cadre de mon exposition sur le roman de renard. Donc c'est comme si je voyais mon dieu vivant un peu. Voilà. Beaucoup d'ouvrages historiques sur les rapports de l'homme à la nature. C'est ça mon inspiration.
Il y a d'autres expositions pour vous. Vous parlez de celle de Troyes, mais est-ce qu'il y a d'autres propositions dans la région ou sur le département?
Sur le département, non. Il y aura une expo sur l'ours fin novembre à Farges, vers Genève. Et puis ensuite, le roman de renard qui est actuellement tourné dans le pays voironnais, on peut l'avoir tout cet été à Vorep. Et elle ira à Troyes et puis dans une commanderie des Templiers. Et pour 2027, j'ai un projet, mais je ne sais pas encore où je vais l'exposer, de travailler sur la ferme des animaux. Donc toujours les animaux, mais cette fois avec un côté très politique, puisque la ferme des animaux, c'est un peu une parodie du système stalinien. Voilà, donc là j'ai très envie de faire peut-être des cochons qui ressemblent à Donald Trump et des moutons ressemblent à...
Oh oui.
Des moutons qui ressemblent à tout un tas de nos ministres ou nos députés, voilà. Donc,
là, je viendrai au premier vernissage.
Et j'ai envie de travailler sur du matériel agricole. Voilà, des sacs de semences Monsanto, ou des bidons de défoliants, voilà, pour mettre en relation aussi le support et le message.
Vous avez aussi un appel à donner?
Oui, justement, pour cette prochaine exposition sur la ferme des animaux, j'aimerais beaucoup travailler donc sur des supports agricoles. Et si vous avez des bidons, des sacs ou des objets qui évoquent directement le travail de la terre, sur lesquels je pourrais venir peindre et que vous voudriez bien me céder. Et ensuite, l'exposition pourrait revenir dans le Diwa et vous pourriez revoir tous ces objets-là customisés, comme on dit. Donc ça, vous pouvez me contacter, par exemple, par Instagram sur mon site, donc The Street Yeti.
Je proposerai, pour terminer cette émission, un morceau de Pink Floyd de l'album Animals. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Oui, c'est parfait.
Et il y en a un qui vous préférez, là?
Non, je vous laisse choisir.
D'accord. Eh bien, je mettrai cette illustration pour finir l'émission. Est-ce que vous avez un site internet, Street Yeti? Street Yeti, pardon.
Sur Instagram, vous tapez The Street Yeti et puis vous allez voir mon petit avatar là, qui ressemble à un facochère.
Je vous remercie en tout cas, Street Yeti, d'être venu sur RDIWA, ainsi que Claudine Brunet pour votre présence, pour nous parler donc du Ventaïr, entre autres. Vous parlez de continuer un peu à travailler la peinture ou du collage, enfin toutes sortes d'expressions graphiques.
Justement, dans cet espace qui est assez vaste et qui va me permettre d'agrandir mes supports, voilà. J'avais déjà travaillé une fois et j'étais déjà venue ici, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est la troisième ou quatrième interview que vous nous faites, voilà.
Un site internet pour le Ventaïr aussi?
Alors, je n'ai pas de site internet pour le Ventaïr exactement, j'ai des photos des différentes affiches qui passent sur un blog, sur le blog du Jableu, et j'ai mon site personnel, claudinebrunet.com.
Je vous remercie à toutes deux.
Merci.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Merci. Au revoir. Thank you.
Thank you.